history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Et c'est l'heure des arpètes. Chaque mois, on décrypte un nouvel enjeu de société au travers d'un essai, avec l'aide de nos invités. De la vulgarisation, des échanges d'idées, des découvertes et des rencontres, les arpètes, c'est votre brunch curieux du samedi midi pour nourrir nos réflexions, construire une culture commune et comprendre un peu mieux la société dans laquelle nous vivons. Et c'est tout de suite sur Prune.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans les arpètes.
Bonjour, je suis Enora, co-animatrice des Arpètes avec Anne-Lise, et ce mois-ci, vous allez enfin avoir le plaisir d'entendre la voix du légendaire Léo, dont on vous parle à chaque émission, et dont il assure la technique. Salut Léo.
Salut.
Eh bien, aujourd'hui, tu feras les deux, à savoir la technique et le bavardage. Sois tranquille, ta prestation sera notée en fin d'émission.
Aujourd'hui, on aborde un peu un double sujet, finalement, parce qu'on va parler du tourisme et de logement. Forcément, quand on accole ces deux mots, on pense tout de suite au Airbnb, mais vous allez voir, ça serait bien d'appauvrir le sujet que de le résumer à cela.
Nous allons donc aujourd'hui tenter de comprendre dans toute sa complexité les mécanismes de mise en tourisme d'une ville et tous les mots en ion qui y sont associés, gentrification, appropriation, Airbnbisation, carte postalisation, et j'en passe.
Pour discuter de ce sujet, nous sommes accompagnés de Guillaume, membre du collectif Droit à la ville de Douarnenez. Collectif créé en 2018 et qui mène à un travail de recherche-action sur le logement et la mise en tourisme à Douarnenez. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
En avril 23, donc tout récemment, vous avez publié un livre intitulé « Habiter une ville touristique, une vue sur mer pour les précaires » aux éditions du Commun.
Et c'est justement ce livre que nous allons arpenter ensemble pendant cette émission. Pour rappel, l'arpentage, c'est une méthode de lecture collective qui consiste à se partager un bouquin, chacun chacune lit sa partie et après on met tout en commun et on discute du sujet. Pour la première fois dans les arpètes, on va faire l'arpentage d'un livre en présence d'une personne qui a participé à son écriture. Du coup, on a un petit peu la pression. Désolé d'avance, Guillaume, si on le résume n'importe comment parce qu'on n'a rien compris.
Sans plus tarder, passons tout de suite à la restitution de nos parties respectives. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur cette histoire de carte postalisation.
Et à toi l'honneur, Léo, puisque pour ton tout premier arpentage, tu avais la première partie du livre « Habiter une ville touristique ».
Allez, première à la radio, première partie du bouquin, on est très à l'aise, c'est parti. On commence avec l'introduction dans laquelle on pose les problématiques de la touristification. On va faire venir des gens avec de l'argent, qu'ils et elles vont dépenser localement, super. Mais un peu comme avec l'idée du ruissellement, on attend encore le moment où il arrive, l'argent. Ou plutôt, il arrive, mais dans les poches d'une partie bien précise de la population. Et surtout, est-ce que c'est vraiment l'argent qu'on attend? La réflexion, c'est donc celle-là. Le tourisme fait venir des capitaux dans la ville, mais au prix de quels sacrifices en termes d'identité, de vie sociale, d'égalité? Le livre parle d'argent maudit. J'aime bien la formule, bien dans le thème « ville de bord de mer et collectif de pirates ». Une des questions centrales posées par le collectif est la suivante. Dans quelle ville voulons-nous vivre? Ici, la ville est pensée comme une œuvre collective. Elle est produite par les habitants autant qu'elle les façonne. Le droit à la ville, ce n'est donc pas juste le droit au logement, c'est le droit de participer à la création de cette œuvre collective, aujourd'hui monopolisée par une poignée d'acteurs, promoteurs, élus, associations de commerçants, etc. La démarche qui a amené à la création de ce livre est présentée comme un travail de recherche-action. Le but est à la fois de comprendre ce qui arrive à la ville de Douarnenez et de transformer cette réalité observée. Les membres du collectif se présentent comme suit, je cite, « des personnes extérieures au champ académique mais faisant partie du champ d'études ». J'aime bien cette façon de se situer et de revendiquer qu'il n'y a pas besoin d'être chercheur ou chercheuse pour être légitime à parler. Habiter la ville, la voir se transformer au quotidien, ça paraît plutôt être la première condition pour pouvoir discuter de son avenir. Mais ce livre n'est pas une finalité pour le collectif, c'est une action parmi les nombreuses qu'il mène, hébergement d'urgence, occupation par exemple. Ma lecture se poursuit avec deux cas pratiques, un entretien avec une habitante et le parcours d'un ancien bâtiment industriel, mais je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'ai encore plein de trucs à dire. Et voilà, et c'est marrant parce que du coup, vu qu'il y a un des auteurs parmi nous, je culpabilise à fond de sauter des parties, mais c'est le jeu. La fin de ma partie du livre se termine sur l'étude de différents lieux communs sur le tourisme et la gentrification. Il y en a 6 jusqu'à la fin de ma partie, mais j'ai dû faire une sélection, donc j'en ai gardé 3. Premier lieu commun, vous êtes un collectif contre la gentrification. Bon, gros sujet la gentrification, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Pour faire court, le collectif insiste sur deux points. Premièrement, on voit souvent la gentrification comme un phénomène logique, inévitable, alors que c'est plutôt une conflictualité. On peut s'en défendre dans la vie quotidienne, via des collectifs, via des projets politiques portés par la collectivité. Deuxièmement, la mise en tourisme est à distinguer de la gentrification sur certains points. Par exemple, plutôt que de remplacer les populations, le tourisme va parfois exclure pour faire place au vide, à cause des résidences secondaires ou des commerces qui ferment les trois quarts de l'année. Et s'il n'exclut pas, il accentue le désintérêt pour les quartiers populaires, dénués d'intérêts touristiques reconnus. Deuxième, le commun, le problème, c'est le tourisme de masse. Bon, premièrement, c'est classiste. C'est la réflexion des bourgeois qui sont d'aigle de plus être les seuls à faire du tourisme depuis les années 30. Et c'est un peu comme quand on dit que la crise écologique, c'est à cause de la surpopulation. Eh bien, il ne faut pas hésiter à s'abstenir de parler. Les activités touristiques populaires, type colonies de vacances ou camping, sont moins demandeuses en termes d'infrastructures et participent moins à l'artificialisation des sols. Et en plus, les gens partent de moins en moins en vacances parce qu'ils n'ont plus de sous. Bref, c'est non. Enfin, troisième lieu commun, toutes les villes littorales sont des stations touristiques. Ici, on distingue plusieurs types de lieux touristiques, le site, le comptoir, la station et la ville. Le site et le comptoir sont des lieux d'activité, ils ne sont pas habités. Dans la station, les habitants et les touristes cohabitent, mais c'est le tourisme qui dicte largement l'économie, les politiques publiques, etc. À la différence de la ville touristique, où le tourisme est présent parmi d'autres activités, il n'impacte pas la capacité à se loger, par exemple. Donc justement, non, toutes les villes littorales ne sont pas des stations touristiques. C'est un enjeu pour Douarnenez, par exemple, de ne pas devenir une station avec tous les problèmes que ça peut amener. Voilà pour moi. J'ai beaucoup apprécié cette dernière partie, notamment parce que ça discute tout en nuances des idées qu'on peut également retrouver du côté des critiques du tourisme. Donc voilà, très intéressant et j'ai hâte d'entendre la suite. Je laisse la main à Anne-Lise.
Merci Léo, je prends la suite, c'est parti. Je préviens, j'ai longuement hésité entre parler extrêmement vite ou couper dans mes notes. J'ai donc décidé de parler extrêmement vite, ça me semblait plus pertinent. C'est un livre très très riche en informations. Ma partie va entre autres s'atteler à donner une définition de l'habitat et de l'action d'habiter. Habiter a un rapport profond à l'identité, aux racines que l'on a ou que l'on choisit et à la culture. Je cite le livre, « Habiter, c'est aussi une appropriation de l'espace pour produire un chez-soi qui correspond à ses sentiments et à sa culture. » Notez le terme « appropriation » et « produire » qui induisent une modification possible du lieu pour le faire ressembler à ce que l'on veut qu'il soit. Cependant, l'habitat a un lien encore plus profond, pour la majorité des gens, avec le travail. Une profonde dépendance existe entre les deux. C'est quelque chose que j'ai pu réaliser notamment grâce à la contextualisation historique que nous offre le livre. L'arrivée du capitalisme, les problèmes de logement, le début des HLM, les promoteurs construisant à la va-vite des logements insalubres et surpeuplés, réduisant l'espace de vie au minimum vital, mais assurant aux ouvriers la possibilité d'aller produire de la richesse non loin de chez eux. Les bourgeois s'installent alors en périphérie et ça y est, l'histoire est lancée. C'est rapidement le serpent qui se mord la queue pour la classe ouvrière, habiter pour aller travailler, travailler pour pouvoir habiter. Et toujours, sans bénéficier de la force de travail, ce sont bien souvent les collectivités publiques qui prennent en charge les améliorations. Douarnes, oui parce qu'après avoir lu toute l'histoire de la ville, je pense avoir mérité le droit au petit surnom, a aussi toujours souffert d'une économie saisonnière. C'était avant l'économie aléatoire de la sardine, puis après son effondrement, l'économie du tourisme. Je note, et je pense franchement que c'est important pour comprendre le caractère essentiel du tourisme et les changements sur la ville qu'il provoque, plusieurs définitions du tourisme. Dès le début, et quand même Douarn n'était pas une ville « fréquentable », entre guillemets, elle attirait les poètes et les artistes pour son côté figé dans le passé, son authenticité. Entre nous, une position qui n'a pas toujours, qui n'est pas toujours enviable en soi. C'est bientôt le caractère nautique de la ville qui attire. Cette citation de 1964 de Jean-Pierre Dubois m'a plu d'ailleurs. Maintenant, la mer est belle, avant elle était calme ou elle était forte. Et puis finalement, le tourisme devient synonyme de bien-être, de calme, de ressources. Et dès le début, la mise en tourisme et les actions prises par les politiques pour attirer le touriste posent question. Qui priorise-t-on ? Pour qui fait-on la ville ? On demande aux habitants au XXe siècle de se vêtir correctement à la plage pour les touristes. On s'attaque à des espaces en friche pourtant d'intérêt et d'usage collectif pour les mettre à disposition du privé. On réprimande les pratiques festives qui ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait du calme de bord de mer. Finalement, Douarnenez est imaginé pour répondre aux exigences d'un tourisme élitiste. Bourgeoisie, personnes retraitées, etc. Les douarnenistes, dans tout ça, sont virés de leur logement pendant l'été à cause de baux illégaux qui permettent aux propriétaires de maisons secondaires de tirer un maximum de bénéfices en été en louant aux touristes. L'ancienne colonie de vacances populaire de Tréboule est remplacée par 17 logements de standing. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On pourrait aussi parler de la disparition des bistrots, pourtant dans le passé piliers de la culture de la ville et véritables repères pour ses habitants. Les habitants à l'année de Douarnenez ont-ils le droit à des vacances, eux aussi, finalement ? Et Nora, vas-y, je te donne 5 minutes pour répondre.
Alors, j'avais pas du tout prévu de répondre à cette question. Moi, j'ai lu la page, j'ai lu la partie qui s'étend de la page 127 à la page 180. C'était pas toujours facile à lire parce qu'il y avait plein de notions qui m'étaient pas familières et du coup, je vais pas du tout m'aventurer à la radio à essayer de vous expliquer les logiques publiques-privées de spéculation immobilière et compagnie parce que j'ai tout juste compris, mais pas assez pour vulgariser. J'ai quand même beaucoup apprécié cette lecture parce que ça a vraiment été une première approche de toutes ces dynamiques économiques et politiques qui se jouent lorsqu'il s'agit de logement. Les dessous de la gentrification, ces fameuses logiques publiques-privées, la spéculation, tout ça c'était très opaque pour moi. Mais ça donne beaucoup de clés pour le mieux les comprendre de s'appuyer sur la situation concrète de Douarnenez. Ce qui m'a marqué le plus, c'est surtout à quel point toutes les décisions prises par les pouvoirs publics lorsqu'il s'agit de tourisme et d'immobilier sont absolument hors sol et vont complètement à l'encontre des intérêts des habitants et habitantes. Je ne vais pas avoir le temps de détailler tout ce que j'ai lu, donc j'ai décidé de vous parler d'un des nombreux mécanismes qui relègue les intérêts des douarnenistes au second plan. J'ai nommé la mise en patrimoine ou patrimonialisation. Donc on parle de patrimoine, c'est ce qui nous est légué par les générations précédentes et qui est considéré comme un héritage commun. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Ensuite, la mise en patrimoine, ça désigne le fait de choisir les bâtiments, les espaces qui sont à préserver ou à rénover pour des motifs historiques ou esthétiques. Et ce qui est important de souligner, c'est que ce choix n'est pas neutre. Choisir ce qui doit être valorisé ou ce qui doit être remplacé, c'est aussi décider ce qui est important ou pas dans l'histoire de la ville. L'exemple donné pour illustrer ça, ça se passe à Douarnenez donc en 2011 et à ce moment-là, c'est un ensemble HLM qui est mis sur la sellette par la VAP. La VAP, AVAP, c'est l'aire de valorisation architecturale et patrimoniale. C'est en gros le document qui oriente les choix de ce qu'on garde ou pas. Donc ces HLM, ils ont été construits dans les années 50 et ils surplombent la plage des Dames. C'est la fameuse vue sur mer pour les précaires. Mais apparemment, ils sont pas beaux. Non, pardon, ils sont pas, c'est pas qu'ils sont pas beaux, c'est que ce sont des bâtiments en rupture dont le remplacement est souhaitable. En rupture avec les intérêts des élites locales et des acteurs économiques, apparemment. Donc détruire cet ensemble HLM, c'est considérer que les gens qui ont vécu depuis les années 50, qui ont fait vivre ce lieu, tisser des liens et des réseaux de solidarité, qui ont travaillé là, n'ont aucune importance dans l'histoire de Douarnenez. C'est presque aussi abject que Darmanin. Ça me rend dingue de lire des trucs pareils, parce que quand on sait que dans d'autres villes, comme à Nantes par exemple, dans le quartier des Batignolles, on reconstruit de toutes pièces des baraques d'ouvriers qui avaient été détruites parce qu'elles étaient jugées trop moches à l'époque, et qu'en détruisant ces HLM, on rase une partie de l'histoire communiste de Douarnenez. Dans le livre, il y a plusieurs autres exemples de réécriture de l'histoire de la ville par le choix du patrimoine. Évidemment, ces choix ne servent jamais les intérêts des habitants. Dans le cadre de la rénovation du port de Rosmeur, c'est la destruction de la cabane de plaisanciers installée là depuis 40 ans qui est requise. Et ça, pour se conformer à la nouvelle charte esthétique. Idem pour les racks en métal, indispensables au rangement des annexes permettant d'accéder au bateau au mouillage. Donc pour créer du patrimoine, on détruit le patrimoine de demain. Logique. Et quand je parle de réécriture de l'histoire, j'abuse pas tant que ça. S'il y a quelques années, c'était l'histoire sardinière de la pêche et de la conserverie qui était valorisée à Douarnenez, aujourd'hui c'est le mythe de la cité légendaire engloutie par les flots qui est mis en avant. Car il faut faire rêver les touristes, et les histoires d'ouvriers et d'ouvrières, c'est pas très glamour. Donc l'esthétique est privilégiée, les usages et le quotidien des habitants et habitantes sont écrasés au profit d'un tourisme qui veut de l'authentique, mais que de l'authentique joli et riche. C'est la notion même de patrimoine qui s'en trouve dévoyée car il ne sert plus à créer un héritage commun, une histoire commune par et pour les habitants et habitantes. Et on retrouve toujours cette même justification des pouvoirs publics, l'attractivité de la ville. Mais l'attractivité pour qui, au profit de quoi et au détriment de qui? Pour les touristes, les habitants ou futurs habitantes qui ont de la thune, mais apparemment pas pour les habitantes qui aiment cette ville parce qu'il y fait bon vivre, qui elles y ont des souvenirs, des histoires de vie et qui peuvent s'y épanouir et s'y sentir chez eux. J'ai fait l'impasse sur beaucoup de choses hyper intéressantes, comme mes camarades, donc je vous incite ardemment à lire le livre en entier. Guillaume, je te laisse prendre la parole pour la conclusion de cet arpentage.
Waouh, merci. vous m'avez parlé de lire de la page 180 à la fin. Du coup, c'est à peu près la dernière partie, puisque le livre est construit en trois parties. La première est... Elle essaie de poser un peu le paysage, quoi. Donc on en a parlé. Il y a de quoi on parle quand on parle de Douarnenez. C'est quoi ce qui arrive à Douarnenez? Poser aussi cette question, dans quelle ville voulons-nous vivre? Donc voilà, c'est les choses dont tu parlais, Léo, tout à l'heure. La deuxième partie, c'est une partie qui essaie d'interroger plutôt les processus. Donc après avoir dit ce qui nous arrivait, c'est essayer de montrer qu'on n'a pas affaire à des processus naturels contre lesquels on ne peut rien, la loi du marché, ou le fait que, parce que Douarnenez c'est joli, c'est forcément touristique. Enfin, le tourisme, ça a été inventé. Le fait d'aller dans l'eau froide avec un maillot de bain aussi, ça s'est inventé, ça peut toujours exister. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas quelque chose de naturel ici. Puis la gentrification, l'idée, c'est ça aussi, c'est que c'est pas parce qu'il y a un endroit qui est sympa ou pas cher, et du coup, il y a des gens qui demanderaient à y vivre, et donc. Et donc les loyers monteraient, ça serait la gentrification par la demande. Il y a aussi la gentrification par l'offre, où c'est les politiques publiques qui produisent des espaces à gentrifier, qui les rendent attractifs. Je ne sais pas moi, au sud de l'île de Nantes par exemple, où enfin, voilà, il y a des quartiers où il y a des vraies politiques publiques de réaménagement, etc., qui produisent ça. Donc ça, c'est un peu la description des processus. Donc là, je suis en train de parler des parties qui ne sont pas la mienne. Et j'arrive donc à ce que je devais dire. La troisième partie, c'est la partie où on parle des résistances à ces processus-là. Et donc on essaie de détailler ça de différentes manières. Déjà, on interroge les leviers à la disposition des élus locaux. Enfin, pendant longtemps, avant, quand on a commencé à écrire ce livre, on avait envie de contourner cette question-là. On s'imaginait bien qu'on nous dirait ben, « vous arrêtez pas de vous plaindre vous râlez, mais vous avez rien à proposer ». Et nous, on avait envie de dire « mais en fait, non, on s'est pas présenté à la mairie c'est pas à nous de faire ce travail-là, c'est à vous de faire preuve d'imagination et puis d'utiliser ce que vous pouvez utiliser. » Mais bon, bah, finalement, on a quand même fait ce travail-là de recenser tout ce qui est à disposition des élus. Donc, bah, on interroge le dispositif zone tendue qui permet le plafonnement des loyers, de fixer des quotas d'Airbnb, qui permet d'appliquer la mesure de compensation qui fait qu'on ne peut pas transformer un logement en Airbnb sans dégager une surface équivalente dans la même ville, voire dans le même quartier, c'est-à-dire faire la transformation inverse. Transformer un logement en Airbnb, ça veut dire qu'on doit, dans l'autre sens, transformer un bureau en logement ou un Airbnb en logement, etc. Quoi. Enfin, on doit compenser, en gros. Du coup, ça rend la création de Airbnb impossible. Donc ça, à Nantes, c'est une zone tendue, puisque c'est une métropole, donc la mairie de Nantes pourrait appliquer cette mesure-là, comme beaucoup d'autres, mais voilà, il faut le savoir. On s'interroge aussi sur des leviers qui n'existent pas encore, mais qui sont à l'étude, ou qui sont des propositions, comme le statut de résident, qui dit qu'avant d'acheter un bien, on doit avoir vécu plusieurs années quelque part. Bon, ça pose plein de questions en termes de... sur les aspects identitaires qu'on pourrait sentir là-dedans, quoi. Il faut être breton pour aller en Bretagne, mais bon, en fait, c'est pas du tout ce que les promoteurs de ce statut de résident... Bon, c'est une idée qui vient de Corse, qui est reprise là plutôt par les partis autonomistes, indépendantistes bretons, mais qui se défendent évidemment de cette critique... qui pouvaient s'attendre à recevoir, en disant, bon, bah, en fait, n'importe qui peut décider d'être breton en s'installant en Bretagne, et c'est vrai qu'avant d'acheter une baraque, eh ben, en fait, c'est bien de vivre quelque part quelques années. Enfin, ça semble évident pour les gens qui n'ont pas énormément de revenus, mais bon, ce qui se passe à Douarnenez, c'est des gens qui achètent sans même visiter à distance, voilà, parce qu'ils ont les moyens. Donc le statut de résident, essaie de poser ça. Bon, bah, y a plein de leviers. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail à mon tour. Donc on liste ces leviers, mais on s'interroge aussi sur le droit. Et qu'est-ce que c'est que le droit? Et le droit comme un terrain de lutte, et surtout comme un champ de bataille. C'est-à-dire que le droit au logement, il a été construit. Et évidemment, il a été construit par les mobilisations, qui ont été nombreuses, des occupations, des squats, des manifs, différentes choses, voilà, qu'on construit le droit au logement tel qu'on le connaît. Donc le droit, il protège les locataires, mais le droit, il empêche aussi qu'on freine des opérations de spéculation. Donc c'est vraiment un terrain de bataille. Le droit permet plein de choses, mais soit il faut le faire changer, il faut le faire évoluer, soit il s'agit de le faire appliquer. Là, je parlais à l'instant de leviers qui sont à la disposition des élus, mais qui ne sont pas appliqués. Donc ça, il faut se battre pour le faire appliquer, le droit. Voilà, donc il faut le réinventer, etc. Donc on fait un peu cette histoire du droit au logement, et puis on va aller étudier des luttes à Lisbonne, les luttes contre Airbnb dans les grandes métropoles. Voilà, dans le livre, il est fait aussi de plein de contributions qui sont extérieures à Douarnenez. Donc il y a des gens de l'île de Groix qui ont écrit. Voilà, on parle de Saint-Malo, enfin, on parle de différents endroits pour... En fait, à partir de Douarnenez, lire des phénomènes qui se retrouvent vraiment ailleurs, enfin qui font commun avec la plupart des territoires littoraux touristiques et même tous les territoires touristiques. Et puis, à la fin de cette partie, on parle d'ouvrir notre imaginaire. On essaie d'aller un peu au fond des choses. Donc, Donc voilà, pour résumer, il y a les leviers à la disposition, il y a comment on pourrait faire bouger le droit, il y a un peu un panorama des luttes, et puis après, il y a, au fond, est-ce qu'il ne faut pas réinventer l'idée de tourisme ? Est-ce qu'il ne faut pas repenser la question de la propriété ? Donc on essaie de l'exprimer, cette notion-là, qui est une notion qui n'est pas évidente, parce qu'on parle de plein de choses différentes quand on parle de posséder quelque chose. On peut posséder le droit d'exploiter quelque chose, on peut posséder le droit de vendre quelque chose, on peut procéder le droit de détruire quelque chose, mais c'est des droits qui sont assez différents. Et on parle, nous, dans cette partie qui s'appelle « Ouvrir nos imaginaires », de choses qui existent, en fait, mais qu'on aimerait voir s'amplifier. Par exemple, on parle des offices fonciers solidaires, donc ça existe en France, mais c'est assez récent. C'est un dispositif qui est géré par les bailleurs sociaux, en général, et d'accès à la propriété, mais repose sur la création donc, de cet office foncier solidaire qui possède le foncier, qui possède le sol. Donc en fait, on achète sa maison, mais on achète seulement les murs et pas la terre. Donc là, c'est considérer que la terre, elle ne peut pas appartenir à quelqu'un. Ou alors, si elle appartient à quelqu'un, elle appartient à la décision collective. Après tout, le sous-sol, par exemple, appartient à l'État en France. Les ondes appartiennent au CSA, à l'ARCOM, qui décide de les attribuer à des radios ou pas. Donc il y a plein de domaines comme ça qui semblent évidemment ressortir du domaine public. Et puis il y a des pays comme l'Argentine récemment qui décident que tout est privé et tout est privatisable, la vente d'organes et n'importe quoi. Enfin voilà, donc en fait, là aussi, il y a des on pourrait avancer, nous, à considérer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec sa maison sous prétexte qu'on en est le propriétaire. Faire n'importe quoi, c'est-à-dire la transformer en Airbnb dans des territoires où il n'y a pas assez de logements pour que les gens puissent se loger. Ou avoir plusieurs maisons quand des gens manquent. Voilà. Donc on pourrait considérer ça, que des contraintes aux droits de propriété qui existent dans plein d'autres domaines. Donc on parle de ces offices fonciers solidaires qui commencent à intégrer cette idée-là, qu'on peut posséder un lieu sans posséder le sol. On parle dans l'ouverture des imaginaires toujours, de l'exemple du quartier libre des Lantillères, donc c'est à Dijon, une ancienne zone d'usines et de maraîchage, je crois, en périphérie de la ville, mais quand même dans l'espace urbain, qui a été squatté, occupé, qui était une ZAD, et qui a obtenu une forme de statut qui n'est pas pérenne, je crois. Mais en tout cas, eux, ils essaient de pérenniser ce lieu. Et leur façon de le faire, c'est de hacker le plan local d'urbanisme, donc de hacker le droit et de faire rentrer dans le droit ce qui n'y existe pas jusqu'ici, dans un PLU. Donc le PLU, c'est intéressant de le lire, même si c'est très pénible comme lecture, mais toutes les politiques publiques d'urbanisme sont dans le PLU et les PLU sont publics. Dans le PLU, il y a un principe de zone, quoi. C'est comme ces jeux vidéo où on fait une zone qui est soit commerciale, du logement, ou alors une zone industrielle, etc. Un PLU, c'est ça. Ce qui fait qu'un endroit comme le quartier libre des Lantillères, c'est à la fois une zone d'activité, c'est une zone agricole et c'est un endroit où les gens vivent. Ça ne s'intègre pas dans ce PLU. Donc il faut l'y faire rentrer. Et ils ont déposé, avec le langage du droit, avec le travail des juristes, le concept de zone d'écologie communale. Donc il y a les zones industrielles, il y a plein d'acronymes avec des Z. Et donc là, ils ont créé la ZEC pour faire rentrer ça dans le PLU et que ça rentre dans les plans d'urbanisme, dans le droit. Donc de faire rentrer dans le droit une nouvelle notion. Donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le droit qui est un territoire mouvant et un enjeu de conflit. Donc ça, c'est pareil, c'est une façon d'ouvrir les imaginaires. On parle aussi de toute la lutte sur l'habitat mobile. C'est pareil, est-ce qu'il ne faut pas... Vivre en yourte ou en caravane, c'est souvent subi et c'est des situations de confort. On ne parle pas de tiny house et de logements innovants, là. Mais pourtant, les maires et les élus locaux sont obsédés par la cabanisation et le fait que des yourtes soient construites, etc., que des gens vivent en caravane, ça les tourmente très fort. Alors que pourtant, là, il y a un endroit intéressant... d'habitat léger, qui peut être confortable, qui peut être éphémère, qui artificialise pas les sols, etc. Donc est-ce qu'il ne faut pas repenser aussi la forme des logements, etc. Donc ça, c'est parti. Puis après, il y a la conclusion. Et la conclusion, l'introduction du livre, c'était dans quelle ville voulons-nous vivre. Et la conclusion, c'est dans une ville vraiment accueillante, c'est-à-dire qui accueille tout le monde. Donc on parle aussi de l'accueil inconditionnel des personnes réfugiées, migrantes, qui ont besoin d'un logement. Donc on considère aussi ces questions-là, on n'est pas juste à réfléchir à protéger notre petit coin de paradis et notre vue sur mer. Donc on parle vraiment de l'accueil, et l'intro elle commence avec ces considérations-là, et l'accueil de tous et toutes. et de l'hospitalité, c'est-à-dire il faut être capable d'accueillir tout le monde, mais aussi de faire rester les gens et de ne pas les exclure. Et c'est, c'est ce qui est en train de se passer à Douarnenez pourtant, avec des gens qui doivent quitter cette ville parce que les prix des loyers sont devenus complètement aberrants. Enfin, c'est ce qui s'est passé là en 5 ans, c'est vraiment un truc de fou. Voilà.
C'est génial, merci beaucoup. C'est la première fois, c'est hyper inédit pour nous de demander à un auteur d'arpenter son propre livre. C'était chouette. J'avais pas mal de questions au niveau de l'imaginaire, justement, oui. Parce que j'avais pas eu cette conclusion. Et donc, tu as répondu à déjà plein de choses qu'on se posait.
On va faire une petite pause musicale avec Territory de Blaze. Et on pourra ensuite lancer la partie interview et revenir sur tous ces questionnements.
Shed some tears of love now, like a desert in the rain. When son of the dead I wake up, there's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah.
Vous êtes de retour sur l'émission Les Arpètes sur Prune. C'était le titre Territory de The Blaze. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Guillaume, membre du collectif Droit à la ville Douarnenez et co-auteur du livre Habiter une ville touristique, une vue sur mer pour les précaires.
Nous venons de mettre en commun tout ce qu'on a appris sur la lecture de ce livre et nous nous apprêtons désormais à poser les milliards de questions qui nous taraudent à notre invité Guillaume.
C'est quoi les élections régionales ?
J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste.
Guillaume, pendant l'interlude musicale, tu nous as dit que ça avait été des moments assez forts. Enfin, tu as commencé à parler de moments assez forts où tu as pu présenter ce livre à des gens à qui ça parle particulièrement.
Ben oui, c'était le livre, c'était pas une fin en soi du collectif Droit à la ville, qui existe plus vraiment. Enfin voilà, c'est, ah oui. On a fini un peu notre histoire avec ce bouquin-là, mais quand on l'a commencé, on s'est pas dit on va faire un bouquin. Puis plutôt quand on a fini, on s'est dit bon bah peut-être qu'on fera plus ça parce que c'est un gros truc. Mais tout ça pour dire que le livre c'est un outil parmi d'autres d'autres modes d'action qu'on a pu expérimenter, déployer pendant ces dernières années à Douarnenez, depuis 4 ans. Des manifs, des occupations, des pétitions, un char pendant le carnaval. Enfin voilà, il y a eu tout plein de choses. Et une de nos envies, c'était de décrire ce qui nous arrive, de sortir un peu des discussions de comptoir et d'en parler, vraiment d'étayer nos ressentis, de leur donner un peu d'épaisseur, de dire que. Il y a 4 ans, on sentait qu'il se passait quelque chose. Bon, 4 ans plus tard, c'était tellement vite. Ça, c'était une expérience assez forte du livre aussi, c'est de voir à quel point la réalité dépassait ce que nous, on soumettait seulement comme des hypothèses. J'arrête pas de digresser. L'idée, c'était aussi de parler de Douarnenez, mais de se mettre en lien avec d'autres, d'abord dans les pays proches, les territoires proches, d'autres collectifs, et puis de qui sont dans des situations similaires. Et puis après, d'aller voir au loin déjà ce qui se fait. On n'est pas les premiers, bien sûr, à se mobiliser sur ces questions-là, sur le tourisme et le logement. Il y a plein d'autres collectifs qui s'organisent et qui expérimentent des choses. Et voilà, il y avait vraiment un peu cette idée de se mettre en réseau et de partager quelque chose. Et le livre, c'est une façon d'aller rencontrer ces collectifs-là. Et donc on a fait ça depuis la sortie du livre en mars. On a beaucoup tourné avec en France. Et oui, ça a été des moments assez forts parce qu'on rencontre des territoires qui sont à chaque fois singuliers, qui ont des histoires propres, qui ont plus d'habitants. On a été dans des grandes villes aussi. Je sais pas, on était à Marseille il n'y a pas longtemps. Mais on arrive à mettre le doigt sur des choses qui... ce qu'ils font commun. Des fois, c'est ce que c'est que de vivre dans un territoire saisonnier, par exemple, ce que ça produit, les effets de saisonnalité, avec une ville qui est pensée autour de la fonction touristique, donc qui est mise en tourisme. Encore une fois, c'est pas un phénomène naturel, il y a une production de l'espace pour qu'il soit espace touristique. Ce que disait très bien Léo tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas une destination, une vocation de Douarnenez à devenir une station balnéaire, etc. Donc là, on a pu parler de ça, de comment le territoire était produit pour le tourisme, parler de Airbnb, évidemment, parler aussi du problème plus vaste. En France, il y a 3,5% des ménages qui possèdent plus de la moitié des logements en location. Donc ça veut dire que vous prenez tout le parc immobilier locatif, c'est la moitié de ce parc qui appartient à 3,5% des gens. Donc quand vous louez un logement, vous avez une chance sur deux d'être face à quelqu'un qui n'est pas un propriétaire qui lui aussi a des galères et c'est pas facile tout ça. Vous avez beaucoup de chances de vous retrouver face à quelqu'un qui est multi-méga propriétaire. Voilà. Donc c'est important aussi on a pu aussi partager ces choses-là. L'idée, quand je dis ça, c'est qu'on ne regarde pas que les problèmes de tourisme à Douarnenez, et c'est que ces problèmes de logement, enfin les problèmes de logement plus que de tourisme, les problèmes de logement... En fait, ce sont des problèmes du capitalisme et de la répartition des richesses. Voilà, c'est le fond de la question, il est là. Enfin, je parlais d'ouvrir nos imaginaires en parlant de repenser la notion de la propriété. Enfin, faut aussi d'abord repenser la notion de partage des richesses et des inégalités qui explosent et qui créent ces situations-là aujourd'hui, de tension sur le logement.
Oui, c'est important, je pense, de redonner ce chiffre que sur les propriétaires que tu donnais, parce qu'il faut casser un petit peu les mythes de BFM et compagnie qui vont nous ressortir des documentaires, enfin des reportages avec des pauvres petits vieux qui se font squatter leur maison et qui en fait sont hyper en galère. Et c'est les grands poncifs des médias, alors qu'en fait, pour la plupart, les propriétaires ne sont pas du tout en galère et possèdent énormément de biens.
Je ne me souviens plus très bien du chiffre, mais je crois que c'est 1% de loyers qui sont impayés.
Ah oui.
Pareil. Oui. Donc les locataires qui ne payent pas, ça existe. Il y a aussi des petits propriétaires, tout ça, mais c'est... c'est quoi la phrase ? Il y a des patrons de gauche, mais il y a aussi des poissons volants, quoi. Enfin, c'est pas la majorité du genre, je ne sais plus quoi. Enfin, bref, un truc comme ça, mais c'est pareil avec le MEDEF qui parle beaucoup des petits patrons qui souffrent pour faire oublier qu'ils représentent aussi des intérêts de grandes familles, gros patronats. Enfin voilà, il y a aussi, il faut aller voir cette complexité-là. dans le détail.
Léo, tu trouvais ça intéressant comme question de faire un parallèle avec Nantes notamment. Bon, je pense que la question a été bien répondue pour le coup, mais je ne sais pas si ça te semblerait pertinent d'en reparler à nouveau. Je pense que la question c'était, est-ce que dans... Alors j'ai pas lu cette partie-là, mais vu que vous opposez station à villes touristiques par exemple, est-ce que dans des villes comme Nantes, le tourisme a vraiment un effet nocif? Est-ce que si on le combat, on défend aussi? Quels intérêts on a à combattre le tourisme aussi dans des villes comme Nantes?
Bon, le même que partout ailleurs. Enfin, je pense, je connais pas bien la situation de Nantes avec Airbnb par exemple. Moi, je pense que de ce point de vue-là, sur le fait que tous les logements deviennent des outils de production, en fait, c'est ça, c'est qu'ils ne servent plus à répondre à un besoin de loger des gens, mais qui répondent à des besoins du tourisme. Donc, bon, dans les deux cas, les besoins des propriétaires, c'est d'avoir de l'argent, hein, c'est pas des bienfaiteurs. Mais c'est ça, c'est faire sortir. Hein. Là, il y a une sorte d'hémorragie des logements, mais je pense qu'à Nantes, comme partout ailleurs, en fait, les villes perdent des logements, c'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins. Et donc les réponses à ça, elles ne peuvent plus être de construire, d'artificialiser les sols et de construire de nouveaux logements. Ça ne peut plus être seulement ça. Et puis le sous-titre du livre, c'est « Une vue sur mer pour les précaires ». Ça ne veut pas dire qu'on tient à tout prix à garder le privilège d'avoir une vue sur mer. Je ne sais pas quoi, ça veut dire juste que quand on construit de nouveaux logements pour loger les pauvres, on va les construire loin. Et les élus locaux à Douarnenez disent en fait, on n'est pas obligé de... c'est la loi du marché, c'est comme ça, on peut rien faire. Et puis on n'est pas obligé de vivre à Douarnenez pour être douarneniste, on n'a qu'à vivre un peu plus loin, quoi. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et je pense qu'à Nantes, c'est pareil. Donc les gens s'éloignent de plus en plus. Moi, j'ai vécu à Nantes 10 ans, mais voilà. Et enfin, quand je suis revenu là ces dernières années, Dalby, c'est devenu autre chose que je connaissais. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tous les potes sont là-bas. Donc voilà, il y a ces trajets qui vont vers un peu plus la périphérie. Le lien avec Nantes, on le faisait aussi d'une autre manière, c'est-à-dire pas vraiment en parallèle ou en miroir, mais plutôt à intriquer les deux villes dans une histoire. C'est-à-dire que Douarnenez, c'est une ville qui a été, c'est une ville nouvelle, quoi, enfin qui apparaît vraiment sur les cartes au début du 19e siècle et qui est une ville créée pour les besoins de l'industrie. Donc la conserve de sardines, il y a encore de l'industrie à Douarnenez, mais c'était des capitaux nantais qui venaient là-bas. Bon, il y avait aussi la fin de l'esclavage, du coup il y avait plein cet argent qu'il fallait placer quelque part, et donc c'est beaucoup des capitaux nantais qui ont façonné Douarnenez. Donc on aimait bien, quand on est venu présenter le livre à la dérive ici à Nantes, parler de Douarnenez comme faisant partie d'un phénomène qui s'appelle la métropolisation. C'est-à-dire des villes-centres qui concentrent les richesses, qui concentrent le travail, qui concentrent les pouvoirs, et des territoires qui sont fonctionnels, un territoire agricole, un territoire de villégiature, un territoire littoral, etc. Et Nantes et Douarnenez ont cette histoire-là de métropolisation, d'abord de mouvement de capital au XIXe siècle pour l'industrie, et là de mouvement de capitaux, plutôt pour les besoins de confort, de spéculation immobilière. Donc il y a beaucoup de groupes nantais, de groupes immobiliers nantais qui spéculent, qui ont des projets immobiliers à Douarnenez, des projets luxueux plutôt. Et donc voilà, mais c'est toujours un peu ce circuit de ville-métropole qui concentre les richesses et de territoires autour qui sont vraiment dans une forme de dépendance intriquée comme ça dans un processus. Donc il y a un lien avec Nantes qui était assez intéressant pour nous. En tout cas, c'est comme ça qu'on avait présenté les choses quand on était venu ici.
Un lien et puis peut-être une... Je ne sais pas, arrête-moi si j'ai tort, mais c'est un lien, une question de responsabiliser aussi, j'imagine, les politiques nantaises pour qu'ils reprennent le pouvoir sur des choses qu'ils ont pu créer il y a plusieurs années aussi.
Ben, oui, et puis après, c'est aussi un travail des collectifs ici de se mobiliser contre des projets qui répondent pas aux besoins des habitants, pour l'ouverture de lieux, pour l'ouverture de squats, pour l'application de la loi. Enfin, je sais pas comment la loi est appliquée ici, puis je connais pas la problématique des Airbnb. J'imagine qu'il y a des résidences secondaires à Nantes, mais que plutôt les résidences principales sont à Nantes et les résidences secondaires des Nantais, des Nantaises sont à Douarnenez ou ailleurs. Mais en tout cas, Nantes peut faire appliquer tous les dispositifs, tous les leviers, enfin peut utiliser les leviers qui sont dans le dispositif de zone tendue. Donc je vous invite à aller voir sur Internet, sur le site de Droit à la Ville, on a fait une brochure qui détaille un peu ce dispositif zone tendue et tout ce qu'il permet. Mais voilà, la mairie de Nantes, elle a des leviers à sa disposition. La municipalité de New York est là la plus avancée aujourd'hui en matière de lutte contre Airbnb. Ils ont interdit Airbnb, tout simplement. Aujourd'hui, on ne peut plus louer un logement en Airbnb si on n'habite pas dedans. On ne peut plus le louer à plus de deux personnes et pas pour des périodes de moins de 30 jours, je crois. Quelque chose comme ça. Bref, ils ont mis plein de conditions qui fait qu'en fait c'est plus possible de faire du Airbnb à New York. Mais on imagine que la situation elle doit être désespérée pour qu'ils en viennent à des extrémités comme ça.
Bah, c'était un peu ma question suivante parce que du coup, tu donnais l'exemple tout à l'heure, je me souviens plus, mais du coup ils ont fait rentrer ce qu'ils voulaient faire rentrer dans le PLU en utilisant beaucoup de codes
à Dijon, les lentilles,
ouais. Voilà. En utilisant tous les codes du droit, etc. Et dans le livre aussi, vous parlez de Saint-Malo, où là, du coup, ce sont des habitants qui commençaient à être plutôt fortunés, qui se sont emparés du sujet parce que ça devenait de pire en pire. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faut attendre que la gangrène soit bien avancée, entre guillemets, pour que ce soit les populations qui ont les codes, qui ont le temps de cerveau, l'énergie et surtout les codes de parole, etc. On en avait parlé pas mal dans l'émission sur le squat, qu'il fallait... bien parler pour pouvoir s'adresser aux élus, savoir correctement écrire avec les codes des puissants, etc. Donc j'ai l'impression que c'est un sujet qui est très technique et pour se lancer dans cette lutte-là, il faut que ce soit des gens qui ont les codes qui s'en emparent et donc potentiellement les plus riches et que le problème soit bien avancé pour que les plus riches s'y intéressent. Je ne sais pas si c'est très complet.
Si, mais c'est une bonne question. C'est vrai qu'à Saint-Malo, c'est... À Saint-Malo, c'est quelqu'un qui n'a pas les codes qui a lancé le mouvement, quand même. Bon, après, qui a été son porte-parole aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui est, je ne sais pas s'il est fonctionnaire, mais il a bossé dans des collectivités. Et donc, lui, il a vraiment les codes. Mais ce qui a lancé le mouvement à Saint-Malo, c'est la lettre d'une habitante de la ville close, donc, qui a parlé de ce que c'était que les nuisances et les perturbations de vivre dans un immeuble où les gens font du Airbnb, donc d'avoir des gens qui changent tous les soirs et qui viennent... pour faire la fête. Il y a deux conséquences avec le tourisme, en tout cas les résidences secondaires, c'est que la ville est façonnée pour des besoins qui sont ceux de ses habitants. Dans le bouquin, on reconnaît aux résidences secondaires le statut d'habitant, mais bon, on regarde ce qu'ils produisent. Et donc soit ils produisent des villes très très calmes parce qu'ils ont besoin de repos, donc ça crée des tensions, des conflits d'usage avec les gens qui résident à l'année, qui ne sont pas dans ces rythmes-là. Soit au contraire, comme à Saint-Malo, c'est... Ça crée des villes qui deviennent, ou dans le centre d'Amsterdam, à Barcelone, des villes qui deviennent des espèces d'exutoires pour des gens qui viennent faire la teuf, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est invivable. Donc ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas les codes qui a lancé ça. Et après, oui, c'est vrai que tu as raison, c'est un mouvement qui a été structuré autour d'hôteliers en colère contre la concurrence d'Airbnb, et plutôt de gens fortunés, mais il reste beaucoup plus que ça à Saint-Malo, dans la ville close, en tout cas, dans le centre. Mais au Pays Basque, c'est plutôt venu de la société civile et de militants. Donc, c'est d'autres formes de codes aussi. C'est des codes de lutte. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quand ça marche, et là où ça marche pour nous, c'est ce qui est assez exemplaire en général, c'est, de ce qu'on connaît, c'est le collectif basque ALDA. Et là où ça marche, c'est quand il y a une vraie réponse de réactivité de la société, que dès qu'un propriétaire fait n'importe quoi ou transgresse la loi, il y a une réponse directe avec des gens qui viennent se mobiliser, qui parlent, etc. Il y a comme une pression sociale, ça passe par des collectifs ou de l'informel. Mais ALDA, ils en parlent comme ça, leur stratégie, c'est que... De faire en sorte d'implanter dans les imaginaires des propriétaires qui voudraient faire de la résidence secondaire ou du Airbnb, que ça va être trop galère au Pays Basque. Un peu comme les Corses ont réussi avec les plasticages qui n'ont pas été que symboliques, ça existait, donc le fait de faire exploser des maisons, ça n'a pas été un phénomène de masse non plus, mais c'est tellement rentré dans l'imaginaire que, attention, si on va aller en Corse pour faire n'importe quoi, on va avoir des problèmes, etc. Et bon, peut-être que les gens iront moins au Pays Basque, ils iront en Bretagne, mais ça, c'est... donc c'est aux gens qui habitent en Bretagne de faire des choses, mais j'ai l'impression que c'est ce qui marche. Je crois que tu as raison. Il faut, pour se lancer dans une lutte comme ça, je pense qu'il faut beaucoup d'énergie et aussi, cette maîtrise d'un vocabulaire technique, mais c'est possible de se faire accompagner. Nous, avec la Recherche Action, on a été, on a invité des universitaires, il y a des architectes qui ont proposé des ateliers autour de la compréhension du plan local, etc. Donc c'est aussi, j'ai l'impression que plus que maîtriser les codes, c'est avoir un... Et réussir à créer une dynamique de terrain qui fait que ça, c'est très réactif qui, et c'est là où il y a des victoires. Bon, encore une fois, l'autre partie de ta question, c'était, tu parlais de situations qui se gangrènent et qui se détériorent et que c'est seulement là que les choses bougent. Et ben, à Saint-Malo, je pense que c'est le cas. Je pense que dans une ville qui a une tradition de commerce, de capitalisme et de piraterie comme celle-là, faire un... se mobiliser contre les intérêts des propriétaires, ben c'est vraiment aller contre eux-mêmes. Enfin, c'est une ville de droite, c'est une ville commerçante, Saint-Malo, et pourtant c'est dans cette ville-là qu'ils ont demandé à être classés zone tendue alors qu'ils ne pouvaient pas l'être en théorie. Enfin, ils ont une dérogation, donc c'est assez fort. Le Pays Basque, il y a des victoires et un mouvement qui est assez impressionnant, mais la situation elle est catastrophique. Et partout ailleurs, on a l'impression que ce qui est fait, c'est freiner un phénomène, mais revenir en arrière, c'est difficile. Et là où je voulais en venir, là, c'est que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est quand... Bon, je ne sais pas ce que vaut la métaphore, mais on pourrait comparer une ville à un écosystème, un écosystème urbain. Et bon, en tout cas, en écologie, il y a des moments où on atteint des effets de seuil. C'est-à-dire qu'on a tellement dégradé un milieu qu'on ne peut plus revenir en arrière. Je sais pas, la pêche à la morue par exemple, il y a énormément de morues qui ont été pêchées alors que les légendes racontaient qu'on pouvait aller jusqu'au Canada en marchant à pied sur l'eau tellement il y en avait, etc. Enfin, il y en avait énormément et il y a un moment, ça a été il y a un seuil qui a été franchi et ouf, ça s'est effondré d'un coup. C'est pas linéaire, hein, tous les États se sont dit, ben on va arrêter et puis elles vont revenir, sauf qu'elles sont jamais revenues. Il y a quelque chose qui s'est trop dégradé et qu'on ne peut pas réparer. Et dans les villes, il y a un peu cette impression-là, des fois, d'aller dans des villes où certains quartiers sont vraiment ravagés par Airbnb. Quand on regarde un taux d'Airbnb sur une ville, il ne faut pas considérer que c'est sur toute la ville, c'est concentré sur certains quartiers. C'est ça qui est important. À Douarnenez, il y a un taux de résidence secondaire qui est de moins de 20%, parce qu'elle tient beaucoup, mais enfin, ça n'a rien à voir avec les 50-60% qu'on retrouve ailleurs en Bretagne, mais elles sont concentrées à certains endroits. Et Airbnb, c'est pareil, c'est concentré sur les endroits avec vue sur mer. Donc, dans ces quartiers-là, quand ces quartiers sont façonnés pour les besoins d'une population qui est plus riche, une population qui est là en vacances, on fait disparaître des usages, on fait disparaître une mémoire, on fait disparaître des commerces à l'année. Et j'ai l'impression que c'est très dur de faire revivre un quartier, d'aller dans l'autre sens, quoi. Alors le quartier, il vit d'une autre manière, pour la fonction du tourisme. Mais ce qui existait avant et ce à quoi on peut être attaché, dans quelle ville voulons-nous vivre et dans quelle ville on a envie de préserver, c'est un peu les questions qu'on pose. Et ben oui, c'est important d'agir. Agissons avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, bon, j'ai l'impression qu'on dit ça sur tous les sujets, mais la question de logement, c'est... La question du logement, c'est de l'urbain en général, des politiques de l'espace, c'est un peu pareil. Je pense qu'il y a un moment où vraiment des villes peuvent mourir. Voilà, on ne va pas finir là-dessus.
Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre aussi, c'est toute la complexité et toutes les nuances que vous proposez, sans jeter la pierre, pointer du doigt et mieux comprendre les personnes qui vont oppresser la ville sans le vouloir forcément. Le touriste, moi, touriste, qui va voir la côte de Granit Rose, comme un bon nombre de Nantais. Les personnes qui ont une résidence secondaire parce qu'ils sont juste partis aller travailler ailleurs, mais qui en soi ont un vrai attachement familial, culturel. Je trouve que c'est hyper intéressant d'arriver à les comprendre et comprendre ce qui se joue, tout en leur proposant quand même quelque chose d'autre parce que c'est plus possible pour autant.
Oui, et ça c'est difficile dans les présentations du livre, étonnamment, et peut-être que c'est pas si étonnant finalement, on a eu beaucoup de résidents secondaires qui venaient nous voir, qui venaient nous écouter, et puis qui nous disaient après, oui c'est vachement bien ce que vous faites, moi je suis résident secondaire, mais je suis vraiment attaché à cet endroit, et j'ai envie qu'il reste vivant. On raconte une anecdote dans le livre d'une résidente secondaire qui est venue nous dire, bravo Droit à la Ville, c'est super que vous battiez pour Douarnenez, que c'est une ville vivante, c'est trop bien. Moi avant j'avais une résidence secondaire dans le golfe du Morbihan, mais je suis parti, c'est trop mort là-bas, il n'y a plus rien, du coup j'en ai acheté une à Douarnenez. Et l'idée, c'est pas de vraiment jeter une pierre à ces gens-là, mais aussi de les mettre face à ce qui s'appelle de la dissonance cognitive. Enfin, on sait qu'on fait quelque chose de mal, mais on se l'accorde pour soi-même. en se disant qu'on a de bonnes raisons. Et ben, est-ce qu'il y a vraiment une bonne raison à ça? Ben, je crois pas. Il y a tout un faisceau d'attachement qui fait qu'il y a des résidences secondaires qui ont grandi à Dornenay, et puis c'est une maison de famille, en fait. Et puis il y en a d'autres, de gens qui disent qu'ils ont toujours adoré la Bretagne, ou qu'ils ont un grand-père breton, etc. etc. Enfin, voilà, tous les il n'y a aucun des résidences secondaires qui... Ben, c'est rare, des gens qui disent « Oui, moi je m'en fous, quoi. Enfin, j'ai deux maisons pour moi parce que je peux, et puis rien à kicker, quoi. » Enfin, non, chacun essaie de se dire que moi, c'est pas pareil. Mais bon, je pense que c'est des mécanismes qu'on connaît bien, quoi. Enfin,
on peut pas se permettre de venir dire « Ah bah oui, mais toi, tu mérites plus parce que t'avais ta famille. Et toi, est-ce que t'aimes vraiment la Bretagne, finalement ?»
Nous, on a juste voulu écarter la question de considérer que les résidences secondaires sont pas des habitants comme les autres, parce qu'on n'est pas un collectif anti-touriste, et puis surtout on n'a pas envie, nous, de faire des pancartes dégueux en disant dehors les Parisiens ou la Bretagne aux Bretons, etc. Enfin, ça, c'est vraiment pas du tout notre imaginaire. Ou comme à Bordeaux, il y avait ces affiches qui avaient marqué Parisien, rentre chez toi, etc. Je pense qu'on peut vraiment se mobiliser sur ces questions-là sans être dans ces considérations autochtones ou identitariste, voilà. Donc, d'accord, les résidences secondaires, oui, vous êtes breton, oui, vous êtes attaché à Dornenay, oui, etc., vous aimez cette ville, enfin, c'est pas le problème. En fait, la question, c'est qu'est-ce que vous y produisez ? Est-ce que vos usages de cette ville, vos usages la façonnent, donc pour les besoins de calme, repos, tranquillité, confort, et puis aussi, voilà, enfin, vous avez deux maisons quand d'autres n'en ont pas. Et on a envie de dire, oui, ces attachements-là, il faut les écouter, enfin, c'est pas qu'ils comptent pour rien, les attachements à une maison de famille, mais y a quand on a présenté le livre, c'était à Bayonne, au Pays Basque, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'ils avaient finalement fini par la vendre, cette maison de famille, la maison de ses grands-parents, en disant que c'était horrible, quoi, mais que c'était comme une séparation amoureuse, ça avait pris un moment, puis au bout d'un moment, on oublie, quoi, enfin, on est passé à autre chose, quoi, mais oui, bah, il y a un peu envie de dire ça, ça va être dur, mais vous allez y arriver à peut-être la louer à l'année, cette maison, voilà, à interroger vraiment cette situation de dissonance, savoir... Faut pas se cacher de. On peut pas ne pas savoir que les résidences secondaires tuent les possibilités de vivre dans cet espace-là. Faire Airbnb, oui, c'est moins cher, c'est pas facile, et puis des fois il y a pas beaucoup le choix. Moi, ça m'arrive de prendre Blablacar aussi parce que j'ai la flemme de faire du stop. Mais Airbnb, on sait ce que ça fait. Et, enfin, moi, ça, par contre, je fais plus. Enfin, je peux pas. Écrire un bouquin comme ça et c'est hors de question, quoi. Mais et bon, l'idée, c'est pas de, c'est, encore une fois, c'est comme l'écologie des petits gestes, c'est pas de culpabiliser les comportements individuels, et pourtant il faut aller voir ça aussi, des situations de dissonance. On sait que c'est ça l'Airbnb, et voilà, faut pas se le cacher, quoi.
Je pense que ce temps de discussion touche à sa fin, et merci à toutes et à tous.
Génial, merci à vous tous, c'était super intéressant. On va clore l'interview passionnante de Guillaume par le titre « Ma môme » de Jean Ferrat. C'est parti.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'en sommeille, chez nous il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du verre à laine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
C'était Ma môme de Jean Ferrat. Et nous vous retrouvons à temps sur l'émission des Arpètes, votre brunch littéraire et politique du samedi midi, pour la partie librairie de l'émission qui suit l'interview de Guillaume, co-auteur du livre Habiter une ville touristique.
Où est le livre ?
À la bibliothèque.
Et la musique danse ?
À la discothèque.
Et les discothèques ?
C'est bébé. Un, deux, trois, quatre.
Aurais-tu des recommandations à nous partager, Guillaume, qui rentrent dans ces sujets de discussion abordés ?
Eh bien, j'ai un livre en tête qui est assez. Qu'un livre universitaire, mais qui fonctionne comme un abécédaire. Enfin, ouais, y a une liste de. Oui, je crois que c'est par ordre alphabétique. Et qui est très clair sur plein de notions et qui s'appelle Le capital dans la cité de Mathieu Adam et Étienne Combi, je crois. C'est aux éditions Amsterdam. C'est un gros bouquin. Mais je pense que ça peut peut-être s'emprunter, se trouver dans une médiathèque. Et on l'a beaucoup utilisé dans le cadre de la recherche. Et puis on a invité Mathieu Adam aussi à Douarnenez pour présenter pas mal de choses. Et ouais, il est assez synthétique.
Trop cool.
Enfin, il est donc, très exhaustif, mais c'est synthétique sur chacun des points.
Donc c'est un livre qui s'attelle à définir... contextualiser.
Oui, capitalisme, enfin C comme capitalisme urbain, A comme Airbnb, enfin je suis même
ouais,
pas,
okay.
je suis pas sûr que ce soit par alphabétique en vrai. Mais il y a toute une liste de termes là et de notions, de phénomènes et puis qui sont, enfin c'est un ouvrage collectif, un ouvrage universitaire, mais qui est un ouvrage de vulgarisation aussi.
Trop cool, merci. Est-ce que tu penses à d'autres choses ?
Là, pour l'instant, ça va.
Bon bah on aura que des livres, je pense, pour cette librairie. Moi, j'avais à vous proposer un autre ouvrage écrit à plusieurs mains. C'est « Tenir la ville » du collectif Asphalt, paru aux éditions Les Étacs, très récemment, il me semble, qui fait un grand tour des luttes urbaines qui se saisissent de la question de l'habitat et des transports. Et on retrouve l'exemple de Douarnenez, d'ailleurs, dans ce livre-là. Et si vous voulez plutôt aborder l'aspect touristique, il y a le livre « Désastres touristiques » qui est tout récent aussi. Le sous-titre, c'est « Effets politiques, sociaux et environnementaux d'une industrie dévorante » d'Henri Mora aux éditions L'Échappée. Et on peut aussi s'auto-citer. On en a parlé un petit peu pendant l'émission, mais on a fait l'année dernière une émission sur le squat avec la Maison du Peuple qui reprend aussi pas mal de ces thématiques.
Et je vous invite à aller voir le site... de droit à la ville si vous voulez, mais aussi le site d'ALDA, donc c'est ALDA, donc c'est le collectif basque dont je parlais tout à l'heure. Il y a pas mal de ressources.
Excellent, merci beaucoup. Merci à toi Guillaume, merci Léo pour la technique. Et on vous rappelle que toutes les références qui ont été citées se retrouveront sur la page d'émission des Arpètes sur prune.net. Vous retrouverez aussi le podcast très prochainement sur prune.net. Et on va prendre des petites vacances du coup en janvier. Normalement, il n'y aura pas de nouvelle émission. On va faire une rediffusion certainement de l'émission sur le travail du sexe qui était très très bien. Et voilà, c'est la fin.
Merci beaucoup. À toutes. Et puis c'était super de vous voir arpenter ce livre. Voilà.
Ça, c'était un vrai plaisir.
Émouvant.
Il y a plein de notes avec des gros cœurs partout. Donc c'était quand même un plaisir.
Super.
Bonne journée, bon week-end tout le monde.
Bonne journée.